Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous êtes content de venir dans la présence de Dieu ce soir? David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Littéralement, aujourd'hui, on pourrait actualiser en disant, je suis excité. Oui, toi, tu attends le quart de finale, là, tu es excité. Est-ce que tu es excité comme ça quand tu viens dans la présence de Dieu? Amen. On veut être dans la joie, on veut être excité, on veut être enthousiaste quand on vient dans la présence de Dieu. Ce soir, on va continuer notre série sur Romains. Et ce soir, Dieu m'a donné un message choc, un message chaud, vraiment. J'ai dit, Seigneur, mais vraiment moi, pourquoi est-ce que tu me donnes tous des messages aussi compliqués? Donne ça à pasteur Christian, il va prêcher sur ça. Mais je vais prêcher, je vais obéir, voilà. Donc ça va peut-être pas te plaire, ça va peut-être pas plaire à ton voisin, mais en tout cas, moi, j'aurai accompli ma mission. On va étudier ensemble le chapitre 14 de Romains. On va lire du verset 10 au verset 13. Romains 14, verset 10 au verset 13. Je lis avec la version Louis II Colombe, qui est un peu différente de ce qui est affiché. Mais vous pouvez suivre. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dis avec moi, chacun rendra compte. Oui, chacun rendra compte. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Amen. Rapidement, le contexte ici, et j'aime bien cette série de Romains parce que quand on étudie la Bible de manière suivie comme ça, on voit où sont les priorités de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thématiques. On veut parler de mariage, on veut parler de relations. Il y a beaucoup de thématiques qu'on traite aujourd'hui. Mais quand on étudie de manière suivie la Bible comme ça, on voit quelles sont les thématiques qui intéressent Dieu. Et depuis le début de Romains, ce sont des thématiques spirituelles qui reviennent, la sanctification, la justification. Est-ce que vous avez remarqué ça? Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît, dites amen. Mardi soir, ne me laissez pas tout seul devant, soyez gentils. Ce sont des thématiques spirituelles qui reviennent. Et Jésus est préoccupé, concerné par ce genre de thématiques. Et aujourd'hui, la thématique, c'est comment vivre ensemble dans la différence culturelle, dans la diversité, avec des opinions diverses et être en paix. Amen. Dans le contexte de Romains, l'Église à Rome était composée d'anciens juifs et d'anciens gentils. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs qui se sont convertis à Christ, qui ont écouté la parole, qui sont devenus chrétiens. Et il y a aussi des païens qui ont entendu la parole et qui sont devenus chrétiens. Ainsi, chacun est venu avec son background. Et il y a commencé à avoir des tensions au sujet de la nourriture. À l'époque, la nourriture, c'était un gros sujet, c'était un gros problème. Parce que on allait dans les temples, on prenait la nourriture, on sacrifiait aux idoles. Donc, pour les juifs, pour les anciens juifs, c'était quelque chose d'impur. C'était comme littéralement du caca. C'était impur, c'était hors. Le problème, c'est qu'il y avait des non-juifs, des gentils, des païens, qui se sont convertis dans la même église. Et comme ils n'avaient pas le background des juifs, et que ce n'était pas écrit nulle part dans les évangiles ou bien dans les prédications de Jésus qu'il fallait s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, ils ne voyaient pas de problème à cela. Et donc, imagine-toi, tu arrives dans l'église et puis l'ancien gentil arrive avec sa viande sacrifiée aux idoles qu'il a achetée au marché. Et le juif regarde ça, l'ancien juif, il dit non mais c'est quoi c'est ce caca que tu emmènes dans la maison de Dieu? Sors-moi ça tout de suite. Et puis l'autre dit non mais c'est quoi ce vieux rétro relou là? Arrêtez avec vos vieilles traditions, on est en Christ maintenant, on est libre. Et tu vois, ils commencent à se, littéralement se fighter. Tu vois, comme dans les joueurs, là, quand ils se cognent le front, là, ils s'intimident, là, dans la Coupe du Monde. C'est comme ça. Il y avait des divisions. C'était très sérieux. Et donc, Paul est venu intervenir sur ce sujet pour apporter une réponse à ces divisions. Si tu me suis jusque-là, tu peux dire amen. Donc, dans la vie, il y a des sujets où il y a un vide, comme un vide juridique, où Dieu ne donne pas des instructions précises. Et chacun avec son background culturel ou son éducation va venir apporter ou proposer une position donnée. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun va avoir une idée donnée. Et lorsque mon idée ne cadre pas avec l'idée de mon voisin, il peut y avoir problème. Je te donne un exemple. Par exemple, la Bible dit de ne pas s'enivrer, de ne pas faire de l'excès de vin, d'alcool. Donc, la Bible ne dit pas si on doit nécessairement boire peu d'alcool ou pas du tout d'alcool. Quelqu'un peut dire, bon, vu que c'est mauvais, le vin, l'excès de vin, je ne veux même pas commencer à boire parce qu'on ne sait jamais où ça va s'arrêter, donc je préfère m'abstenir complètement. Donc il y a des chrétiens comme ça, qui ont cette position, ils ne prennent jamais d'alcool. Mais il y a certains qui disent, tant que c'est bu avec modération, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu me suis? Donc on connaît le principe. Le principe, c'est ne vous enivrez pas. Mais dans l'application, notre application n'est pas la même. Certains vont dire, je ne bois pas du tout, d'autres vont dire, je vais boire un peu. Donc si je veux imposer le fait que je ne bois pas du tout à quelqu'un qui veut boire un peu, il peut avoir un problème. C'est la même chose avec l'habillement. Tout ce que la Bible dit, c'est habillez-vous de manière décente. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière décente? Tout le monde a sa définition. Ou en tout cas, chacun peut apporter une définition différente. Il n'est écrit nulle part que le pasteur ne peut pas prêcher en t-shirt. Est-ce que tu me suis? Pourtant, si on est en t-shirt, ça peut choquer certains chrétiens qui vont dire, mais un pasteur doit absolument être en costard-cravate. C'est la bienséance. Mais si je me mets en costard-cravate, je peux aussi choquer des gens qui sont en t-shirt. Ils vont dire, mais le pasteur, il est distant de nous. Il n'est pas comme nous. Il ne comprend pas notre mode de vie. Tu vois la problématique? Et on peut étendre cette problématique à tout. La PMA. La fécondation in vitro. Des parents chrétiens qui n'arrivent pas à concevoir. Est-ce que je peux utiliser la science? Certains vont considérer ça comme un manque de foi, parce qu'il faut prier, Dieu va répondre, Dieu va donner l'enfant. D'autres vont considérer ça comme un canal par lequel Dieu va bénir. Est-ce que tu me suis? Donc, sur des questions où il n'y a pas d'instruction précise, il peut y avoir des interprétations différentes, et si une personne veut imposer son interprétation à l'autre, il peut y avoir un conflit. Et c'était le cas. Il y avait un conflit à cause de la nourriture. Les anciens juifs disaient, il est hors de question que vous mangiez de la nourriture sacrifiée aux idoles. On fait des agapés après le culte, on ne veut pas voir une seule viande sacrifiée aux idoles parce que c'est impur. Les gentils qui sont convertis disent, mais c'est qui cette bande-là? Évoluez un peu, on est en 2017. Enfin, ils disaient pas ça, ils n'étaient pas en 2017. Mais évoluez un peu, arrêtez avec vos vieilles traditions. Il y avait un conflit et l'Église était au bord de la rupture. Et Paul va dire ceci. Paul va dire ceci. Pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. En fait, il est en train de dire, premièrement, il est en train de dire deux grandes vérités. La première vérité, c'est que tu ne dois pas juger l'autre sur ses préférences. Est-ce que tu me suis? Vous êtes bien calme là, est-ce que vous êtes avec moi? Rassurez-moi. Tu ne dois pas juger l'autre sur ses préférences. On ne parle pas ici de vérité biblique incontestable. On parle de préférences, de choses où il n'y a pas d'indication précise et valide dans la Bible. Tu ne dois pas juger l'autre sur ses préférences. C'est ce que Paul dit. Pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, l'amour dans l'Église, nous ne devons pas juger l'autre sur ses préférences. Maintenant, je veux tout de suite donner la définition de juger parce qu'il y en a qui abusent aussi. Ne me juge pas, je fais ce que je veux. Qui es-tu toi pour me juger? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire juger. La Bible nous exhorte à juger et à la fois à ne pas juger. Oui. Dans Matthieu, Jésus va dire jugez de tout. Donc la Bible nous exhorte à juger. Mais ici, Paul dit de ne pas juger. Donc, on juge ou on ne juge pas. En fait, ça dépend de ce que tu mets dans juger. Lorsqu'il s'agit juger, il y a deux éléments dans juger. Qu'est-ce que le juge fait? Le juge, premièrement, il évalue. Il évalue une situation. Il écoute une situation. Il analyse une situation. Et ensuite, quand il va prendre une décision, après son analyse, il va choisir de condamner la personne. Est-ce que tu me suis? La Bible nous demande d'évaluer, mais pas de condamner. Oui. Donc, tu peux juger la personne sur ce qu'elle fait. Tu peux dire, ça, mon frère, j'estime, j'évalue que ce n'est pas bien. Mais je ne vais pas condamner la personne. Je ne vais pas mépriser la personne. Je ne vais pas écarter la personne. Je ne vais pas dire, toi, tu ne me touches pas. Toi, tu es un chrétien, mais tu regardes des films. Parle-moi. Oui. Parce que la Bible dit de veiller sur ce que nos yeux regardent. Le principe est là. Mais dans l'application, lui peut dire, moi je regarde des bons films, je sélectionne ce que je regarde. Toi tu ne veux pas regarder, mais laisse-moi regarder. Donc, si lui choisit de regarder des films, je ne peux pas le juger. Je peux évaluer, tenter d'évaluer, discerner, analyser ce qu'il fait, mais je ne peux pas le mépriser, le condamner. Dire, toi tu es un mauvais chrétien, toi tu vas aller en enfer. Sur ça, je ne peux pas. Donc, nous pouvons juger, c'est-à-dire jauger, évaluer, discerner les situations, mais nous ne pouvons pas stigmatiser, condamner, rabaisser, mépriser les autres. C'est pour ça que Paul dit, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Il parle bien du fait de mépriser et pas d'évaluer. Donc, dis à ton voisin, je ne vais pas te condamner, mais je vais t'évaluer. Oui. Je vais jauger ce que tu fais. Ça, j'ai le droit. Par contre, condamner, mépriser, ça, je n'ai pas le droit. Donc, Paul va mettre en garde contre le légalisme, qui veut absolument juger le pécheur. Mais attention, Paul va aussi mettre en garde contre le libéralisme qui veut justifier le péché. Parce qu'il y a des gens, comme on a dit de ne pas juger, il dit, ah, donc je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Tu n'as pas le droit de me juger, mon frère. Il dit des gros mots, frère, tu n'as pas le droit de me juger, j'ai le droit de dire des gros mots. Tu vois? Paul met en garde contre le légalisme qui veut juger le pécheur, mais aussi contre le libéralisme qui veut justifier le péché. Donc voici ce qu'il va dire. Certes, c'est vrai. Tu ne dois pas juger ton frère. Mais il rappelle que chacun rendra compte. Chacun, il y a un jour où chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même. Donc, je ne dois pas te juger, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Aide-moi, dis à ton voisin, je ne te juge pas, mais ne fais pas n'importe quoi. Oui, dis-lui, parce que j'ai l'impression que quand je lui dis, il n'entend pas bien, donc peut-être que toi, ça passera mieux. Oui. Ouais. Je ne peux pas te juger, mais ne fais pas n'importe quoi. Tu ne peux pas me juger, c'est-à-dire me condamner, mais je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Donc, Paul parle aux deux catégories de personnes. aux personnes qui jugent. Il leur dit, tu n'es pas obligé de faire la police dans l'église. Tu n'es pas obligé de venir dire, toi tu as prié ce matin. Réponds. Je suis en train de répondre. Je suis ton frère. Je suis ton gardien. Réponds maintenant. Je suis ta sentinelle. Paul dit de ne pas faire ça. Si tu es assez proche de quelqu'un, s'il y a une relation de confiance, tu peux donner des conseils. Mais il ne peut pas y avoir de conseils s'il n'y a pas de communion. Je ne peux pas avoir une personne comme ça et commencer à l'exhorter. Ce sera mal perçu. Ce ne sera pas perçu avec amour. Il faut une relation de confiance, un cadre de confiance. J'apprends à connaître la personne, j'apprends à apprécier la personne. Et après, je lui dis, écoute, tu sais, ma sœur, ça, est-ce que tu ne pourrais pas revoir cette attitude? Et là, parce que tu l'as aimé, la personne va t'écouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Paul met en garde. Je vais très lentement parce que c'est extrêmement important. Si tu comprends ça, ta vie chrétienne peut changer et l'Église peut changer. Paul met en garde contre le légalisme qui veut juger le péché, qui veut que tout le monde soit comme moi, mais aussi contre le libéralisme qui veut juger le pécheur, mais aussi contre le libéralisme qui veut justifier le péché. Et on est dans une ère, il faut comprendre dans quel type d'ère on est. On est dans une ère d'individualisme, où on ne croit plus à des lois morales, on ne croit plus à ce qui est absolu. Tout est relatif. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Tu as ta foi, j'ai ma foi. Tu as tes valeurs, j'ai mes valeurs. Et c'est l'ère du moi, 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 moi. Et ce relativisme-là tend aussi à changer notre façon de concevoir la vie chrétienne. Où j'ai l'impression que c'est moi qui définis finalement ma loi, ma façon de vivre. Ça ne concerne que moi, c'est ma vie. Mais Paul est en train de dire ici, attention aussi à l'individualisme, au libéralisme, au relativisme. Attention, parce que tu auras des comptes à rendre. Donc ce n'est plus quelqu'un qui va venir me donner des ordres. Change, change. C'est moi-même qui vais me placer à côté de quelqu'un sous sa redevabilité et dire, frère, puisque je sais qu'un jour je vais être jugé, pardon, juge-moi maintenant. Ton jugement-là va me faire moins mal que le jugement dernier. Oh, dis amen, dis amen. Si c'est vrai, dis amen. Oui. Donc, si je sais ça, si j'ai la crainte de Dieu, je vais moi-même dire, hey, pasteur, vraiment, est-ce que tu peux me suivre pendant une semaine là parce que je ne vais pas bien? Je préfère qu'un frère ou qu'un ami ou qu'une sœur me suive, m'accompagne et me juge, c'est-à-dire m'évalue, me jauge, plutôt que de rester dans mon individualisme, de faire ce que je veux et d'en tirer les conséquences plus tard. Je prie que ce soit notre dimension au nom de Jésus. Je prie que nous soyons une église qui est sage, qui ne plonge pas dans le légalisme, qui ne plonge pas dans le libéralisme, mais qui sait faire la part de choses. Je prie qu'il y ait ici des frères et des sœurs qui ne jugent pas, qui ne méprisent pas les autres, qui ne méprisent pas ceux qui sont différents, qui valorisent les autres, mais que chaque personne aussi puisse être responsable de lui-même et puisse aller se placer lui-même sous la coupole d'un leader. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Donc juge, mais ne juge pas. Maintenant, voici la deuxième partie que je disais. Paul dit, tu ne peux pas faire n'importe quoi parce que tu vas être jugé, verset 10. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et ne parle pas à des non-chrétiens. Oui, il faut que tu saches, mon frère, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. D'accord, mais il y aura un jugement. Oui, quand on va finir de juger pour le ciel et l'enfer, là, maintenant on va dire, bon, vous qui allez au ciel, là, venez ici. On va vous juger. Et la Bible dit dans Corinthiens, Dieu va scruter vos œuvres. Oui. Et va rendre à chacun là selon ses œuvres. Oui, oui, oui. Attends, tu crois que Dieu il fonctionne un peu comme la parabole des ouvriers à la dernière heure te montre la grâce de Dieu. Parce que pour ceux qui ont commencé le matin et pour ceux qui ont commencé le soir, il a donné la même chose. Mais la parabole des talents te montre la justice de Dieu. Il te montre que quelqu'un ne peut pas rester paresseux, faire n'importe quoi, avoir la même récompense que les autres. Tu crois que toi, Tu arrives, tu fais rien, tu es peinard, tu t'impliques pas, tu dis Dieu même, tu pêches comme tu veux, tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes. Tu fais ce que tu veux et puis tu meurs et tu crois que tu auras la même récompense qu'une femme au premier siècle qui avait un bébé dans son ventre. On lui a dit renie Jésus, elle a dit non, on lui a percé le ventre avec son enfant. Tu crois que tu vas avoir la même récompense qu'elle? Non, Dieu serait injuste. Donc, il y a des récompenses différentes au ciel. Donc Dieu jugera, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. On va tous passer devant. Moïse va dire, ouais, j'ai fendu la mer en deux. Les gars vont dire, ouais, Moïse, ouais, Moïse. David va dire, ouais, Goliath, je me rappelais encore. Cou, 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 bah, les gens vont crier. Et puis on va dire, toi. Oui, bon, c'est vrai que c'était compliqué en 2018. Il y a Netflix, bon, c'était dur, donc j'avais pas trop le temps d'aller à l'église. Puis il y a la grève des transports. Quoi? Quoi? Quel type de chrétien tu es? On a le même Saint-Esprit. Nous, on était persécutés. Toi, tu n'as rien. Tu crois? Non, gars. Impossible. Impossible. Oui. Si c'est vrai, dis amen. Donc Dieu montre à la fois sa grâce en te donnant le salut gratuitement, mais il montre sa justice en te rémunérant selon tes œuvres. Donc, ne va pas être mendiant au ciel. Oui. Donc, on va être jugé. On va être jugé. Et il faut que je te dise quelque chose. Dans chaque pays, dans chaque culture, il y a des forces démoniaques qui opèrent de manière différente. À l'époque de Paul, c'était la nourriture. Il y avait les gens idolâtraient la nourriture. Ils sacrifiaient la nourriture à des idoles. Ils faisaient des fêtes avec des beuveries, ils mangeaient, ils buvaient. C'était la nourriture, l'idole. Donc le diable, il y avait les démons qui contrôlent l'alcool, la nourriture, les excès de table. Ici, c'est nous. Nous, on gère. Aujourd'hui, ce n'est plus la nourriture. Aujourd'hui, le démon du sexe a remplacé le démon de la nourriture. Oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. On est dans une culture extrêmement perverse. Des fois, je me demande si on n'a pas dépassé le niveau de Sodome et Gomorrhe. Vraiment. Et le démon de la sexualité malsaine a remplacé le démon de la nourriture. C'est pour ça qu'il y a des statistiques impressionnantes de personnes qui sont dépendantes de la pornographie. C'est pour ça. Parce qu'il y a des démons qui contrôlent. Tu sais, j'ai compris ça quand ma femme et moi, on est allés au Togo l'année dernière. Je suis arrivé, il y avait une atmosphère différente. Il y avait d'autres forces là-bas. Les mysticismes, des choses comme ça, les sorciers. Il y a des choses dans chaque pays. Mais quand je suis revenu en France, je me suis dit, il y a un climat malsain par rapport à la sexualité. Je me dis, c'est impressionnant. Même tu vas dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Tu sens un climat, tu te dis, mais c'est malsain. Oui. Les gens là-bas, à 35 degrés, il fait plus chaud là-bas, mais ils s'habillent plus couverts qu'ici. Je te dis la vérité, voyage, tu vas voir. Donc, ce n'est pas une question de chaleur. C'est des démons qui influencent la manière, la conception, la manière de penser des gens. Oui. C'est pour ça que quand tu parles de Dieu, les gens te regardent bizarrement. Mais quand tu fais des blagues de sexe, tout le monde rigole. C'est ça. Non, tu peux acclamer. Si je dis la vérité, acclame. Je t'ai dit, moi, je ne voulais pas prêcher ça. Je voulais laisser ça à pasteur Christian. C'est lui le pasteur de l'église. Donc, acclame. Chaque culture, chaque époque, chaque pays a des démons prédominants qui régulent la façon de penser, la mentalité, les mentalités des gens et qui pervertissent les consciences. Et aujourd'hui, la Bible parle de séduction de la fin des temps. Qu'est-ce que la séduction? En fait, le diable opère de deux manières. Il opère soit par la persécution, soit par la séduction. Dans la persécution, il te force à faire le mal. Mais dans la séduction, il te pousse subtilement à aimer le mal. Du coup, il n'est plus obligé de te forcer, tu fais le mal tout seul. Oui, c'est ce que le serpent a fait dans le jardin. Il n'est pas venu séquestrer Adam et Ève sur une chaise, les a attachés, leur a dit, vous mangez. Non, il a dit, allez, le fruit là, je suis sûr que c'est mauvais. Et puis, il a emmené dans la séduction. Il dit, ah, c'est pas mauvais finalement. On peut essayer. Oh, c'est pas si grave que ça. Après tout, c'est qu'un fruit. C'est à cause de quelqu'un qui a mangé un fruit qu'on a tous les problèmes aujourd'hui ici. C'est qu'un fruit, c'est pas grave. Tout aussi. Oh Dieu, des fois, mon Dieu, il est rétro. Allez, il faut essayer de nouvelles choses. Tu vois, pimenter la vie. J'ai été chassé du jardin. La séduction t'emmène à aimer le mal. C'est pas grave. Oh, allez, sois pas trop dur. C'est ce qui est arrivé à Samson. Les Philistins sont arrivés, ils voulaient le prendre par la persécution, la force. Ils n'ont pas réussi. Ils ont envoyé Delila. Il a aimé le mal. Il s'est donné tout seul. Je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que tu puisses déjouer tous les plans de l'ennemi à ton sujet, à mon sujet. Je prie que nous soyons une église qui ne subit pas, qui ne succombe pas au piège de l'ennemi, mais qui les dénonce, qui les voit, qui les discerne et qui les dénonce selon qu'il a écrit. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de la chair, mais dénoncez-les. Amen. Oui. La séduction. Il passe les démons de la sexualité. Et dans son plan de campagne, quand le diable fait campagne tous les ans, il gagne chez les démons parce qu'il n'y a pas d'autres candidats, c'est un dictateur. Dans son plan de campagne, il a dit, bon, dans cette ère-là, dans ces zones Europe-là, voilà la stratégie qu'on va adopter. Voilà les lois qu'on va voter sur la sexualité malsaine. Donc, il va attaquer les enfants. On va commencer à enseigner la masturbation aux enfants de 4 ans. Il va attaquer les familles. Il va commencer à mettre le désordre dans les couples. Dire, non, le mariage est plus important. Il va casser les choses. Il va attaquer dans l'identité. Je suis un homme, je suis une femme. Je ne sais plus. Il va attaquer au travers de la sexualité. Parce que c'est les démons qui prédominent. Donc, toi, tu arrives, tu sors, tu vois les affiches, tu dis, oh, c'est des démons derrière, mon gars. Oui, je t'assure. Tu crois que si le diable vient avec quelque chose que tu détestes, tu vas prendre? Il n'est pas fou. Il vient avec des choses que tu aimes. Oui. Waouh. Et tu vois, on est dans l'ère de l'hypersexualité, tu le vois même dans le langage. Il y a 30 ans, on ne disait pas sexy. Ça n'existait pas. Des fois, quand je regarde, avec ma femme, on regarde les films des années 1800. On regarde les hommes qui font la cour. Enfin, bon, c'est elle qui m'oblige. C'est elle qui m'oblige. Des hommes qui font la cour. Madame, je serai toujours là pour vous. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour notre époque? C'était beau, c'était sain. Les gens s'habillaient bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, les femmes, et même les hommes, mais particulièrement les femmes, qui s'habillent pour aller au travail, s'habillent plus dénudées que les prostituées en 80. Oui, est-ce que quelqu'un me suit là? Parle-moi. Oui. Donc, il y a un glissement, une séduction qui est en train de s'opérer et tu ne te rends même plus compte. Nos enfants vont grandir dans un monde où ils vont trouver l'homosexualité normale. Est-ce que tu me suis? Oui. Même toi, de plus en plus, tu dis, bon, finalement, ils s'aiment. Est-ce que c'est vraiment... Oui. Et tu verras des gens très intelligents aussi, qui s'affichent, qui font leur coming out. Tu dis, ah, bon, peut-être que nous aussi. Bon, je ne fais pas, hein, mais est-ce qu'il faut juger, tu vois? Séduction. Oui. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que tu puisses dénoncer les œuvres du diable, les reconnaître. Et tu vois, je parlais de sexy. J'aime pas ce mot sexy. Tu vois, j'aime pas ce mot. Parce que avant on disait quelle femme gracieuse, quelle femme élégante, quelle femme belle. Aujourd'hui on dit elle est sexy. Et dans sexy, il y a quoi? Sexe. Donc tu ne t'habilles pas pour être élégante, mais tu t'habilles pour provoquer des pulsions sexuelles chez l'autre. Oui, c'est ça sexy. On dit même des applications sexy. On met tout, des voitures sexy. Hé! Voitures sexy. Je t'ai dit que j'allais parler. Hein. Si tu n'es pas à l'aise, le rayon des enfants, c'est à l'étage. n'y a pas de moniteur, mais tu peux aller fermer les portes. Ouais. La séduction. Oh, il m'a séduit. Non, on fait des abus de langage. Mais la séduction, c'est quelque chose de malsain. Il m'a fait la cour. Oui, ça c'est bien. Mais tu vois, et tu t'habitues. C'est ça la séduction. Tu te rends même plus compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui prédominent. Ils font leur plan sur plusieurs dizaines d'années. Oui. Il y a 15 ans, des choses te choquaient. Aujourd'hui, ça ne te choque plus. Parce qu'ils font leur planning. Ils vont commencer à mettre des petits trucs dans les pubs. Dans 5 ans, ils vont commencer à faire des films avec voilà, des trucs plus explicites. Et puis dans 30 ans, ça devient normal. Et les chrétiens participent aussi. Tu vois. Le travail du diable, il faut comprendre que le travail du diable, c'est de te faire tomber. Toi, tu te réveilles le matin, tu prends ta douche et tu vas au travail. Tu vas sur ton écran d'ordinateur, tu travailles, tu vas avec tes dossiers. Quand le diable se lève, lui, son travail, c'est de te faire tomber et de faire tomber les gens. C'est son travail. Donc, le travail du diable, c'est de te faire tomber, d'instaurer un monde de décadence, de perversion, où les gens vont de plus en plus tomber facilement. Quand il sait qu'il ne peut pas détruire des chrétiens, parce qu'il a la haine contre les chrétiens, parce qu'il a la haine contre Dieu, contre l'homme, parce que l'homme a pris sa place. Avant, c'était lui le numéro 2. Maintenant, c'est l'homme le numéro 2. La Bible dit que nous sommes les prémices de sa création. Donc, il a la haine contre toi. Donc, quand il se lève, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de te détruire et de détruire les gens même qui ne connaissent pas Dieu. Ben, pour eux, c'est facile. Mais toi qui es chrétien, il veut te détruire. Mais comme il sait qu'il ne peut pas te détruire, il va te faire vivre une vie infructueuse. Une vie où tu es là dans la dépression, dans les soucis. Une vie où tu tombes de dépendance en dépendance. Comme ça, tu es complètement improductif. Et quand Dieu, Jésus dit, mais je veux utiliser quelqu'un. Lui, il est en rémission, il ne peut pas, il est malade. Il est dans une dépendance, il ne peut pas. Lui, il est dans la dépression, il ne peut pas. Lui, il souffre à cause de ses problèmes. Et Dieu a peu de personnes efficace à utiliser. Et c'est comme ça que le diable paralyse l'Église. Donc, ce que je veux dire ce soir, c'est que tout ce qui arrive n'est pas naturel. Oui. Des fois, il y a des choses, tout ce qui arrive n'est pas spirituel, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens aussi qui chassent des démons de fatigue alors que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'aller se reposer. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens équilibrés. Mais tout ce qui t'arrive, oui, c'est vrai, il faut leur dire. Tout ce qui t'arrive n'est pas naturel. Tout ce que tu vois, tous les trucs que tu vois, ce n'est pas naturel. Tu crois que quand Job a eu le feu, là, la Bible dit que le diable est allé inspirer des Sabéens pour venir mettre le feu. Toi, tu ne vois que les Sabéens, mais il y a le diable derrière. Donc, tout ce que tu vois de perversion, de tout ça, que des fois même tu as envie, il y a des forces démoniaques derrière qui opèrent. Mais je prie que tout ce que le diable avait pronostiqué, avait calculé sur ta vie, soit brisé dans le nom de Jésus. Dieu est en train d'envoyer sa parole pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, pour que nous ne soyons plus distraits, pour que nous ne soyons plus ignorants de ces réalités-là. Et donc, voici mon point. Paul dit, usez plutôt de votre jugement, ne vous jugez pas les uns les autres, mais usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc, je t'ai dit que le travail du diable, c'est de se lever, de te faire tomber. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il a un lance-pierre. Quand il se lève le matin, il cherche des pierres. Oui, il a le lance-pierre, maintenant il cherche des munitions. Il se dit, qu'est-ce que je vais utiliser? Ouh, lui, il est chrétien, mais il aime bien le monde. Je vais l'utiliser. Paf, pierre d'achoppement. Le diable a aussi un fusil, un kalachnikov. Il cherche des munitions. Il dit, quelle munition je peux trouver là? Oh, elle là, oui, elle aime bien le monde. Elle aime bien aller en soirée. Je vais l'utiliser. Poup, pierre d'achoppement. Ne laisse pas le diable t'utiliser comme une cartouche pour détruire les frères. C'est ça la pierre d'achoppement. Donc, ce n'est pas juste, j'ai ma liberté, je fais ce que je veux, toute façon. Non. Regarde, on est dans la Coupe du Monde. Il n'y a rien de plus horrible que les buts contre son camp. Bon, moi, je n'ai pas encore vu beaucoup de matchs, je n'ai pas eu le temps. Mais il y a eu un match, là, où le gars a marqué contre son camp. C'est horrible. Tu t'imagines, tu t'es entraîné pendant des semaines et des semaines avec tes coéquipiers, tu as dormi dans le même hôtel qu'eux, tu as mangé avec eux, tu as pris l'avion avec eux, tu as rigolé avec eux, tu es allé sur le terrain, tu t'es échauffé avec eux, tu portes leur maillot et quand le match commence, au lieu de marquer là, tu tournes là, tu marques là. Il s'attrape la tête, dit non, non. Mais tu vois, toi tu dis que tu es dans l'équipe de Dieu. Tu portes le maillot de Christ. Tu dis je suis chrétien. Mais tous les jours tu joues contre le camp tu joues pour le camp du diable. Oui. Tu ne peux pas porter le maillot de Christ et être une pierre que le diable utilise pour faire tomber les gens. C'est impossible. Et je crois que Dieu m'a inspiré ce message parce qu'on est en été. Oui, on est en été. Oui. Il y a une histoire que Dieu m'a inspirée. Le diable se lève un jour et se dit, je vais faire tomber Serge. Toute ressemblance avec des personnes. Si tu t'appelles Serge, papa de toi. Le diable dit, je vais faire tomber Serge. Serge, il a un avenir prometteur. C'est un futur évangéliste. Il vient de se convertir. Il a le feu. Il dit, waouh, lui, dans 15 ans, ça va être l'évangéliste international qu'on va voir sur tout. C'est un gars qui a un ministère. Mais il est jeune dans la foi. Et le diable dit, lui, aujourd'hui, c'est ma cible. Toi, tu t'es levé pour aller travailler sur ton ordinateur. Lui, s'est levé pour dire, lui, c'est ma cible aujourd'hui. Je mets objectif done, tâche, liste de tâches done, si je le fais tomber. Et donc le diable dit, je vais faire tomber Serge. Sauf que c'est un gars en feu, c'est un gars qui prie. Comment je le fais tomber? Il s'est dit, bon, ah, ouais, il y a Sophie là à côté. Hein? Elle est devant sa garde-robe en plus. Sophie est devant sa garde-robe. Oh, c'est l'été, et puis toutes les filles s'habillent short. Pourquoi nous, les chrétiennes, on ne doit pas s'habiller short? D'ailleurs, j'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Je suis fatiguée des gens qui m'imposent des choses. C'est ma vie. Donc aujourd'hui, je sors, et puis on regarde toutes les filles. Moi, on ne me regarde pas. J'ai 30 ans, je suis encore célibataire, donc j'en ai marre. Aujourd'hui, je m'habille comme je veux. Donc je prends ce short-là. D'ailleurs, il est trop long, je le coupe. Comme ça, on va avoir des bouts de ma chair. Parle-moi. Oui. Et puis je mets ce soutien, et puis je mets rien sur le soutien, donc je sors avec le soutien, voilà, comme ça c'est bien, et puis je mets ma chevelure, je me maquille bien, et moi aussi on va me regarder aujourd'hui, voilà, d'avoir fait trop chaud, oui, parce que si je mets 3 cm de plus, je vais mourir de chaud, vous comprenez, voilà, donc, et Sophie arrive dans le même resto que Serge. Le pauvre Serge, il est venu. Je te parle de la réalité. Le pauvre Serge, il est venu. Il s'est dit, bon, je vais prendre une petite pause et après je vais aller travailler. Il s'assoit. Mais Serge ne travaille pas. Il regarde que Sophie. Il baisse la tête, il écrit. Il regarde Sophie. Oui. Oui, parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en temps, Sophie a décidé aussi de se faire des tatouages partout. Et regarde Sophie. Et là, les démons qui contrôlent la sexualité sont en train de chauffer pour dire, ouais, les gars, on l'a presque là. C'est bon, les gars, continuez à chauffer, on l'a presque. Et là, tout le passé de Serge est en train de remonter. Comment il était addict. Et ça remonte, et il combat. Et Serge rentre à la maison. Et une pensée démoniaque lui dit, va devant ton écran. Allez, fais ce que tu faisais avant quand tu étais chrétien. Allez, c'est accessible. Personne ne saura. Et Serge tombe. Et il retombe. Et il retombe. Et après, il se dit, en fait, je pensais que Christ délivrait, mais je suis de nouveau addict. Ça ne sert à rien. Et il vient de moins en moins à l'église. Et puis on lui dit, Serge, t'es chaud, tu veux? Il dit, ah non, je suis occupé un peu, je suis un peu fatigué. Et progressivement, Serge abandonne la foi. Le futur grand évangéliste a été disqualifié parce que le diable a trouvé une balle dans son fusil pour tirer sur Pierre. Pierre avait sa responsabilité. Parce que quand tu marches... Ouais, ah, absolument. Et ce que je dis, c'est... Oui, non, non, attends. Ce que je dis, c'est valable aussi de l'autre côté. Parce qu'il y a des gars, ils font la musculature, ils se musclent, tout de suite, ils disent, waouh, quel frère, il aime le défi, il aime se dépasser et tout. Mais en été, il met des petits shorts comme ça, là. Yo, baby, tu veux monter dans la décapo? Allez, fais un tour. Tu vois? Il y a des frères comme ça ici. Dieu te voit, mon gars. Dieu te voit aujourd'hui. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Tu es démasqué. Oui, 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 oui. 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 Donc, c'est dans les deux sens. T'inquiète pas. Donc, Serge, avec sa responsabilité, il devait veiller. Il avait sa responsabilité. Tout le monde a sa responsabilité. Mais Sophie, Dieu lui demandera compte pour ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'il dit, ne nous jugeons pas les uns les autres. Mais n'oubliez pas que chacun rendra compte. Et tu vois, l'histoire que je viens de te raconter, c'est une version moderne de ce que David a vécu. David était en haut de son treillis. Il passait dans la fenêtre, il dit, oh, c'est qui ça? Sophie. Il y a des questions. Bathsheba. Il regarde, après il repart. Il dit, oh là là, elle est vraiment belle cette femme. Ouh, c'est qui ça? Et il rentre dans un cycle. Il va finir par tomber. Et le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a terrassé Goliath, a été terrassé par Bathsheba. Par une femme qui peut-être était innocente, qui peut-être ne voulait faire de mal à personne, mais qui par manque de sagesse a été une pierre d'achoppement. Et ce soir, ma prière, c'est qu'on vienne devant Dieu, qu'on demande pardon pour toutes les fois où on a été une pierre d'achoppement. Tout le monde. J'ai pris l'exemple de la sexualité parce que c'est la problématique prédominante. Mais il y a plein de choses. Toutes les fois où j'ai mal parlé envers un frère, toutes les fois où j'ai usé d'un caractère, j'ai été colérique, et quelqu'un est venu à l'église pour la première fois, je l'ai jugé, je lui ai dit, je lui ai mal parlé, et cette personne est repartie. Toutes les fois où j'ai été ce qui empêchait quelqu'un de venir vers Dieu, toutes les fois où j'ai joué dans le camp de l'ennemi, toutes les fois où je me suis laissé utiliser par l'ennemi pour faire tomber quelqu'un. J'aimerais ce soir qu'on puisse, alors que l'équipe musicale peut s'approcher, qu'on puisse vraiment juste demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été une pierre d'achoppement, où j'ai été une cartouche dans le fusil du diable pour faire tomber les autres. Je te demande pardon pour toutes les fois où le diable m'a utilisé pour juger les frères. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai porté ton maillot, le maillot de Christ, mais je n'ai pas arrêté de tirer contre mon camp. Je n'ai pas arrêté de jouer en faveur du diable. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Seigneur, tu veux une église sans tache ni ride. Et nous sommes dans un monde de séduction qui nous emmène progressivement à accepter le mal et à faire le mal parce que nous voyons le mal comme bien. Parce que nous ne voyons plus le mal comme le mal. Seigneur, pardon, parce que nous avons été séduits par le diable. Tu l'as prophétisé, tu as dit dans les derniers temps, les hommes seront séduits. Il y aura une grande séduction. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas me laisser séduire par le diable. Parce que je suis ton enfant. Parce que je suis ton fils et je suis censé te refléter. Accorde-moi la grâce à chaque fois que je vais m'habiller, que je puisse aller devant le miroir et dire, Saint-Esprit, toi qui es en moi, est-ce que tu es bien dans ce que je porte? Seigneur, sans aucun jugement ou aucun légalisme sur ce qu'on doit porter ou ce qu'on ne doit pas porter, tu nous dis de ne pas juger. Nous voulons juste venir nous mettre devant toi et te dire, Seigneur, je suis dans ton camp. Seigneur, que les gens ne me voient pas comme sexy, mais qu'ils me voient comme brillant de la gloire de Dieu, comme élégant, comme débordant d'une joie naturelle, comme belle et comme beau. Seigneur, que je ne puisse pas être un canal qui va faire tomber mes frères, qui va faire tomber des non-chrétiens, qui va faire tomber des serges, mais que je sois quelqu'un qui t'honore. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à se lever et prier? Dieu veut envoyer un vent de libération, Seigneur, ce soir. Le travail du diable, c'est de faire tomber. Je ne veux pas participer à ce travail. Je ne veux pas laisser le monde me séduire. J'ai ma liberté en Christ. Et je veux user de ma liberté en Christ. Mais jamais pour favoriser le diable. Je fais ce pacte avec toi aujourd'hui, Seigneur. Je te prie afin que tu m'aides à être toujours fidèle dans les moindres détails. Quand tout le monde me voit et quand personne ne me voit. Je veux, Seigneur, t'être fidèle. Tu envoies un vent de libération aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci parce que les pièges du diable sont démasqués ici. Je te prie parce que tu réveilles une génération de héros, une génération de gens qui ne vont pas marquer dans le camp de Dieu, qui ne vont pas marquer contre leur camp, mais qui vont envoyer des missiles dans le camp du diable. Je prie, Seigneur, ce soir, parce que tu vas lever des hommes et des femmes consistants, compétents, des hommes et des femmes qui ont du caractère, qui savent dire non au péché, qui savent dire non à la tentation. Tu vas réveiller une église qui va être belle, sans tache ni ride, pas perverse, pas séduite, non. Une église sans tache ni ride. Je prie, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune vierge folle ici, mais qu'il y ait des vierges sages qui sachent mettre de l'huile dans leurs lampes, qui sachent s'être remplies du Saint-Esprit, qui sachent parler comme le Saint-Esprit, qui sachent à s'habiller de manière à réjouir le Saint-Esprit, qui sache se comporter de manière à réjouir le Saint-Esprit. Je prie parce que les œuvres du diable soient anéanties dans le nom de Jésus ce soir, dans cette église Paris Métropole. Je prie que les œuvres du diable soient anéanties dans le nom de Jésus. Tu es paru, le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable. Je refuse de construire avec le diable. Je suis né pour détruire les œuvres du diable. Je suis né pour aller dans les sphères de péché, mais ne pas être contaminé par le péché, mais moi contaminer les gens par ma sainteté. Je ne serai plus influencé par le monde, non. C'est moi qui vais influencer le monde. Je ne me laisserai plus séduire, non. C'est moi qui vais évangéliser. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Dieu réveille une génération de héros. Tu as demandé pardon. Dieu te pardonne. Maintenant, il te donne une mission. Comme le gadaréen, il te dit, va prêcher. Va dans ta famille. Va faire la différence dans les milieux de la mode. Va faire la différence. Crée des choses que personne n'a jamais créées. Montre qu'on peut être élégante et belle en 2018 sans être impudique. Montre qu'on peut être beau et fort et musclé en 2018 sans être un coureur de jupons. Montre la différence. Inspire des générations. Inspire des gens autour de toi. Que des gens puissent te voir et qu'ils puissent dire waouh, comme il est beau, comme il est belle, mais comme il a le feu pour Dieu, comme il est intègre dans le secret. Je veux lui ressembler. Montre des jeunes qui vont faire la différence. Pas des jeunes qui tombent et qui retombent et qui retombent et qui retombent, non, mais des jeunes qui sont stables, des jeunes qui sont debout parce qu'ils sont constamment dans la prière, parce qu'ils sont constamment dans l'adoration, parce qu'ils sont constamment dans la louange. Des jeunes que le diable veut essayer de venir faire tomber avec les choses du monde, mais qui sont debout, qui sont solides et qui terrassent les œuvres du diable dans le nom de Jésus. Des jeunes devant qui des démons tremblent, ils disent lui, il n'y a rien de lui en nous. On a cherché la sexualité, il est carré. On a cherché les problèmes d'argent, il est carré. On a cherché la colère. Il est doux et aimant. Il n'y a rien du diable en toi ce soir. Proclame le coré de bachin de rebos. Kandare de bachere de coré de bos. Kandare de bos kendere de bos. Église Paris Métropole, Dieu veut susciter une nouvelle génération. Nous sommes dans les temps de la fin. Dieu veut susciter une génération de personnes qui font la différence. Tu as été créé pour être la lumière et le sel. Mais la Bible dit, si le sel perd sa saveur, qui va saler le monde? Tu as un rôle à jouer. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu ne peux pas user de ta liberté n'importe comment. Tu as une liberté, mais tu as aussi une responsabilité. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous rendre conscients de cette responsabilité ce soir. Que tu puisses nous aider à ne pas juger nos frères, à ne pas mépriser nos frères. Non, si l'autre choisit de faire différemment, alléluia, c'est pas grave. Marchons de même pas. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Si l'autre choisit de faire des choix que moi je n'ai pas fait, c'est pas grave, il reste mon frère. Si l'autre a ses préférences à cause de sa culture d'origine, c'est pas grave, on reste des frères. Que nous puissions vivre cette unité, alors le diable viendra. Il essaiera de passer par l'impudicité, il ne pourra pas. Il essaiera de passer par la division, il ne pourra pas. Alors nous pourrons être une église unie, une église belle, une église rayonnante, une église qui impacte son environnement. Alléluia. Saint-Esprit me demande de faire un appel maintenant. Si tu as envie de marquer le coup aujourd'hui, tu n'es pas obligé. Honnêtement, tu n'es pas obligé. Si tu ne viens pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie de faire un pas vers le Seigneur, si tu as envie de lui dire, j'ai assez vécu comme le monde, maintenant je veux faire la différence dans le monde. Viens sur le devant. L'équipe de pasteurs va prier pour toi. Si tu as envie de dire, j'ai été très critique, j'étais très dur, j'étais légaliste, j'étais prompt à juger les gens, bien sûr le devant va prier pour toi. Dieu va considérer cet acte de repentance de manière très sérieuse. Il va t'équiper de manière puissante pour faire la différence. Alors viens sur le devant. Alléluia. Alléluia. Viens sans tarder, viens sans tarder. Fais ce pas de foi. Il y a encore beaucoup de personnes qui veulent venir. Venez, venez tous sur le devant. On va prier ensemble, comme une famille. On a lu, on ne se juge pas les uns les autres. Aujourd'hui, c'est toi qui vas prier pour quelqu'un. Alors viens sur le devant. Alléluia. Je vais inviter les intercesseurs à venir m'aider prier. Même si tu es intercesseur, tu ne te sens pas loin ce soir, ne viens pas. Je veux juste que des personnes qui sont connectées viennent prier, sont connectées au Saint-Esprit. On va prier pour vous, on va prier avec vous. Approchez partout sur le devant. Il y a une génération de héros qui se réveillent. Il y a une génération de personnes qui vont faire la différence. Alléluia. Ne posez pas de questions, priez juste pour la personne. Priez juste pour la personne avec amour, avec conscience. Priez avec la personne. Elle va faire une différence. Comme le Gadaréen, son passé ne sera pas son futur. Il y a des évangélistes, des gens qui vont devenir évangélistes internationaux. Il y a des gens, ils auront un impact fulgurant. Mais jusque-là, le diable les avait tenus parce qu'ils étaient dans le compromis. Aujourd'hui, Dieu va libérer leur destinée. Alléluia. Venez partout sur le devant. Carré des poches.